D'abord, par rapport à M. Bénisseur, on trouve un produit des dates lors des dates, lors des ventes aux enchères, puisque cela est des avantages aux producteurs. Aussi, ça permet de faire la technique automatique des plantations dans les courses en service. Et donc, c'est beaucoup plus simple de passer par ce système. Et puisque aussi, ça permettait d'entrer en direct d'entrer en possession de terre sans avoir à payer en produit. Et ce hypothèse, je trouve que là aussi, il avait une fonction de coercion, en fait. À la fin du 8e siècle, on voit que les pasteurs sont rarement en possession des marchands métropolitains, sont rarement en possession des domaines de leurs éditeurs. Mais par contre, lorsque la bête s'accélère, et que dans la période plus tardive, quand le commerce séculier commence à se faire de plus en plus, on voit que quand ça s'accélère, de plus en plus, ils prennent possession des domaines. Et John Binet qui meurt en 1819, il n'y a qu'un cas où il possède le domaine comme débiteur, mais après son fils qui reprend la firme le fait de plus en plus souvent. Donc là aussi, ça nous fait une menace, aussi le débiteur ne fait pas ses intérêts, etc. Cette procédure peut être mise en place. Donc pour finir,
oui, c'est facile de mettre la discussion.
Voilà, donc en fait, le premier particulier des deux points que j'ai mentionnés, sont rentrés dans le contexte, une façon différente du pouvoir d'inflation, car avec le temps, ça s'est inscrit à la demande des éditeurs, qui est rendu plus facile grâce aux dispositions du développement VR. Donc là, c'est la grosse différence entre le système légal anglais et les autres systèmes. Mais en même temps, ce que je me trouve, c'est que ça avait finalement une implication assez limitée, un impact assez limité, à cause du problème des ventes d'enchères. Les parties que ça a changé sur cette information, c'est aussi que parce que tout ça dégage finalement, c'est un appel de pouvoir de coercion. Et finalement, on se retrouve dans une réelle menace pour les éditeurs. Et les facteurs que fait obtenir des sites comme ça en 2020, c'est nécessité l'existence d'un système légal
opérationnel. Voilà, je vais peut-être lancer le. Ce qui est très intéressant en fait, c'est ce que tu as dit dès le départ, c'est-à-dire ce mélange de l'informel et l'informel, ouais. et du rôle finalement assez ambigu de l'institution. Et c'est pour ça que ça fera référence avec le papier d'après, où l'institution, c'est pas pareil. Ça fonctionne très différemment, mais en même temps, on en arrive à se demander à quoi sert l'institution, puisque finalement elle ne sert que dernier recours. En dernier mot, mais en gros, hein, je grossis à peu près. Et moi, comme j'ai étudié le système parisien de ce problème-là, la question que je me pose, c'est, autant que je conçois bien le système métropolitain, comment ça fonctionne, puisqu'il y a des proximités, justement, et dans un système où il n'y a pas de proximité, c'est ce que tu as dit à un moment, distance-temps, comment fonctionne la merde? Comment ça se fait? Par un réseau de correspondance sur place? Ou bien est-ce que les métropolitains en arrivent à venir? Parce que dans le système français, il y a ce qu'on appelle les étrangers créanciers, où tout se recouvre, et puis il y a le débiteur, au moins au début, hein. Après il y a le système de délégation, mais tu vois, où il y a un rendez-vous ensemble le problème, où on essaie de résoudre ensemble. Or là, vu la distance, comment ça se passe?
Donc en fait, ouais. C'est plutôt quand je travaille sur le réseau commercial sur Guinée-Guinée, je travaille justement sur ces problèmes-là. Ce qui m'intéresse justement, c'est l'articulation entre ces institutions formelles et informelles, et le fait qu'ils ont accès aux deux, en fait. Donc, et ce qui est très intéressant, quand je me suis intéressée à ce réseau commercial, c'est le fait que, bon, d'abord, il y a bien sûr les procédures normales, qui sont des représentants là-bas, alors, ce qui est très intéressant avec le Covid-19, ce ne sont pas... Alors, d'habitude, on pense souvent que ça va être des parents ou des membres de la famille qui sont envoyés là-bas, qui gèrent les affaires et tout ça. En particulier, dans des systèmes plus grands, il y a plus d'intermédiaires. Par exemple, dans un domaine, il y a souvent des maisons commerciales locales qui fonctionnent comme intermédiaires, et souvent, ce sont des parents qui sont envoyés et qui montrent ça. Alors là, c'est une toute petite communauté, et ce qui se passe d'intermédiaires de parents. Par contre, ils ont souvent c'est les régisseurs de représentation qui ont des pouvoirs de la personne qui peuvent les représenter dans les procédures légales. Mais aussi, ils impliquent d'autres planteurs, des gens. L'association, en fait, ça m'a beaucoup étonné comment vous pouvez faire ça à distance, vous avoir recours justement à ses parents, à ses réseaux. Et en fait, ça vient surtout du fait que on nous voit souvent ces deux mondes, mais Tobin et Piné ont une forte attache à un édit qui ont passé dans mes 20 ans et sont constitués leurs réseaux. Et il y a une proximité finalement relationnelle qui compense la distance en fait.
Et comment, parce que autant je comprends la simultanéité d'un phénomène amiable, on est là et on discute et on dit oui, d'accord, on peut vous rendre des aides, on délai ou autre. Mais avec ce phénomène de distance, c'est quand même les métropolitains qui sont qui décident. Or, comment ils font en pratique, puisque pour aller. Tout
s'étend
dans le temps, alors. Oui, toute la procédure prend des mois,
Moi, quand même,
d'aller aux Antilles,
pas non plus,
tout le monde. Le fait
que
ça,
c'est par des voyages.
Alors, ça arrive. Mais en fait, non, mais ce qui est assez surprenant, c'est le fait que, on sent quand même une grande indépendance. Hein, ils sont quand même en charge pas mal de choses, et ce qu'ils font pour essayer justement de garantir le problème d'opportunisme, bon, parce que même si ils en font conscience, comment est-ce à dire ça, ils chargent des pouvoirs de représentation à plusieurs personnes. Donc ça permet de réguler ça. Et après, il y a un ou deux cas où effectivement il y a des affaires un peu plus embêtantes, et je viens de se rendre en Chine, aux Antilles, je vais le refaire en cette période, il reste des mois, d'apprendre le moins, c'est les débats, mais
C'est des intérêts qui sont très souvent étroitement liés, parce que beaucoup de ces gens ont passé du temps. Je pense à quelqu'un que vous connaissez sûrement parce qu'il a vécu sur vos îles, hein, sur vos voies, c'est un petit peu leur siècle à peu près avant, qui est William Schumann, qui a laissé les correspondances, qui était par la migration, vous connaissez sûrement. Ça, c'est exactement le problème. C'est quelqu'un qui s'est allé sur passer le rêve, venu d'Angleterre s'établir, et puis qui, au bout d'une quinzaine ou une vingtaine d'années, reparti, et qui gère effectivement ses affaires, mais certainement de la façon dont vous avez fait, c'est-à-dire par l'intermédiaire de planteurs, qui sont soit des gens de la famille, mais forcément, ils sont en fait des sortes d'intermédiaires politiques. Donc, je crois qu'il ne faut pas opposer obligatoirement deux groupes sociaux qui en fait sont quand même assez fortement intégrés. Alors moi j'avais une question à ce propos-là, c'est vous évoquez un petit peu dans votre papier que j'ai lu, c'est quand même des villes aussi où il y a une présence de la monarchie anglaise très forte dans la mesure où ce sont des positions qui sont militairement assez déployées. Ces villes, elles ont été occupées par les Français dans les années 1760, et elles le sont à nouveau, si je me souviens bien, dans les années, enfin, il y a des empêchements, en tout cas, dans les années 1780. Alors, il y a aussi quand même une présence là militaire, comment ça se passe, ça, ici? Parce que, bon, c'est militaire, il faut les approvisionner, il y a tout un jeu, il y a toute une économie, je dirais qu'il y a une économie d'État, vous le faites, hein, et une économie de la défense. Comment ça
interprète en fait, elle est plus basée à Antigua et Jamaïque que dans son texte particulier. Effectivement, le gouvernement général, lui aussi, est basé en Antigua. Mais il tient beaucoup justement de ne pas avoir, il y a toujours une position assez forte des planteurs, en particulier par rapport au système infantiliste, qui était toujours échappé et contourné. Et donc il y a toujours cette opposition assez forte. Et finalement, la présence militaire, ça peut se sentir dans ce contexte-là.
On parle de conflits au fond métropole coloniste, pour réguler. Mais lâchez le mot, il y a du commerce, il y a de l'affaire qui se passe en fait dans le cadre caraïbe en lui-même. Alors là, il peut aussi y avoir des conflits de temps en temps. Alors comment ça se passe?